au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et tout change sur Europe 1 en cette rentrée 2016, même notre rendez-vous quotidien avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour chère Anissa, bonjour à tous. On pourrait croire à première vue que rien ne change de mon côté. Pour cette nouvelle saison sur Europe, nous sommes toujours au cœur de l'histoire, avec le même indicatif, avec le même horaire, 14h, 15h. Seulement, derrière cette douce musique, sous cette apparente stabilité, se cache en fait une petite révolution, Anissa.
En fait, vous avez mis l'été à profit pour concocter une toute nouvelle formule, Franck, et il y aura trois parties désormais dans votre rendez-vous.
En effet, alors tous les jours, en levée de rideau, une histoire inouïe, c'est son nom, et nous allons essayer de vous étonner chaque jour avec un récit incroyable, ce genre d'aventure où la réalité dépasse la fiction.
Et d'ailleurs, celle d'aujourd'hui va donner le ton. Il est question d'une mariée qui disparaît le jour même de ses noces.
Oui, une mariée qui s'évapore, c'était sous le règne de Louis XV. Ensuite, un acteur de l'histoire viendra nous parler d'un livre, d'une expo, d'un film, d'un lieu à visiter en rapport avec la grande histoire ou la petite. Et là aussi, on peut dire que nous commençons fort pour cette saison.
Très fort même, Franck, puisque vous, votre premier invité de la saison, eh bien, c'est le directeur de la Fondation Napoléon, l'excellent Thierry Lenz, qui viendra nous présenter une biographie dont on n'a pas fini de parler. Quant à la troisième partie...
Alors, ça, c'est la grande nouveauté de cette saison 2016-17. À 3h-20, nous retrouverons le feuilleton de la semaine, si je puis dire. 5 jours de suite, du lundi au vendredi, nous évoquerons en effet un grand destin, en prenant tout notre temps. Et pour cette première semaine, le grand destin en question, c'est celui d'un homme de cinéma. J'ai nommé...
Charlie Chaplin, grand comédien, grand cinéaste, sans doute la première star planétaire.
Alors, pour commencer aujourd'hui, nous allons revivre l'enfance misérable de Charlot à Londres. Est-ce qu'on peut dire que c'est un programme assez varié, Anissa? Ça vous convient?
Ah, ça me convient parfaitement. En tout cas, sur le papier, c'est parfait. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à.
Eh ben, c'est parti.
Europe 1,
14h, 15h, au cœur de l'histoire,
Franck Ferrand.
Le château de Montségur sur l'Auzon, dans la Drôme, est presque à l'état de ruine. C'est une belle ruine. De loin, hormis le clocher de la chapelle, on dirait les premiers degrés d'une pyramide aztèque envahie par la végétation. Des arbres ont même poussé là un peu partout. À Montségur, on raconte une histoire bien étrange, une histoire du temps de Louis XV. Juin 1745, les armées du maréchal de Saxe font trembler l'Europe. Un groupe de jeunes gens de bonne famille, des officiers en goguette, s'aventure jusqu'au château, un château qui déjà à l'époque est un peu ruiné. Il fait chaud, il fait même lourd, et parmi ces jeunes élégants, le vicomte de Rabastin. S'il a une vingtaine d'années, il n'aime rien tant que le mystère, eh bien vous allez voir, il va être servi. Le concierge qui reçoit les jeunes gens est un vieil homme mal peigné, mal rasé, la peau rouge et le poil blanc. « Allons, mes seigneurs, c'est pas un jour pour venir s'amuser. Depuis 30 ans, c'est un désert ici. Passez donc votre chemin. » Les jeunes officiers n'en ont cure. Ce vieux manoir les intéresse. Je dirais même qu'il les magnétise avec ses murs crénelés et son chemin de ronde en appic. « Mais que s'est-il passé ici ?» demande Rabastin. Rabastin, ça a de l'intuition, vous allez voir. Bah, voyez vous-même. Le concierge désigne une croix de pierre en contrebas avec cette inscription « Lucie de Pracontal, 25 juin 1715 ». « Qui était donc cette Lucie ?» demande un des jeunes visiteurs. Le vieil homme ne se fait pas prier. Il chasse de ses genoux le beau chat gris aux yeux couleur d'ambre. « C'était il y a plus de 30 ans maintenant, dit-il. » Le 25 juin 1715, en effet, par une journée déjà lourde et orageuse, le château de Montségur sur l'Auzon est en fête. On y célèbre les noces d'une beauté de 18 ans, Lucie de Pracontal, avec un jeune homme issu comme elle d'une bonne famille, le comte de Quinsonnas. « Elle était si belle, dit le vieil homme, avec ses opulents cheveux blonds. Elle était douce, intelligente. » Il en a les larmes aux yeux et Rabastin se dit « Il l'a connue, ça se sent. » Le jour de la fête, sortant de la chapelle nuptiale, l'assemblée, tous les convives qui étaient là, découvrent une table de festin chargée de fleurs, de rubans, qui a été dressée dans la galerie du bas. Lucie est heureuse, elle est divine, avec sa robe de soie bleu clair, les bijoux de famille attachés par sa propre mère à son corsage, des diamants, un double rang de grosses perles. La société est joyeuse, on festoie, on s'enivre, Lucie rayonne. Au milieu de l'après-midi, de l'après-dîner, comme on dit à l'époque, quelqu'un propose, pour se dégourdir les jambes, une partie de cache-cache. Les jeunes mariés sont ravis. Bonne idée, cette partie de cache-cache. Le château est immense, je vous ai dit qu'il était déjà en partie ruiné. Lucie connaît chaque recoin de la maison depuis son enfance. Elle ne devrait pas avoir trop de mal à trouver la bonne cachette. Alors la petite société s'égaille. Une heure passe, le jeu s'épuise, les candidats finissent par se retrouver tous comme prévu dans le vieux vestibule. Tous ou presque. Vous avez vu Lucie? Quelqu'un l'a dénichée? Non. Lucie? Je l'ai aperçue du côté des caves, lance un convive. Eh bien, allons-y, portons-lui sa victoire. On descend en groupe dans la partie souterraine du château de Montségur. Lucie? Lucie? Un long moment se passe en recherche. Certains refont surface, d'autres insistent. « Mademoiselle, vous êtes là ?» Rien. 3 heures durant, on ratisse les souterrains, les écuries, les greniers, les granges, la chapelle, pourquoi pas. On inspecte la réserve à blé, les coffres d'avoine, on ouvre, on retourne, on vide, on s'inquiète. « Lucie, enfin, Lucie !» Aucune réponse. À la tombée du jour, c'est une véritable angoisse qui s'est emparée de la compagnie si joyeuse quelques heures plus tôt. Un malheur est arrivé. Les invités ont rameuté leurs gens, ils ont mobilisé tout le village, les métayers, les serviteurs, on inspecte tout, les vergers, les fossés, les haies, les broussailles. « Madame Lucie ! Madame Lucie !» Après une nuit qui va être très courte, les battues reprennent dès l'aube. On revoit les mêmes salles, les mêmes lieux pour la énième fois. On éclaire les citernes, on inspecte jusqu'au-dessous des lits. Rien, rien de rien, pas un morceau d'étoffe, pas une pièce de joaillerie, pas la moindre trace de sang. La pauvre marquise de Pracontal, la mère de Lucie, est là, elle erre hébétée au milieu des fouilleurs. Elle croit tomber folle, sa fille chérie s'est volatilisée. Et si c'était les bohémiens? Eh oui, l'heure est venue des mauvaises pensées. Le fait est que le matin même des noces, une bande de bohémiens est venue s'installer dans les environs. Certains n'en démordent pas. Vu les belles parures qu'elles portaient, faut pas chercher bien loin. Mais une descente musclée dans le campement ne donne rien. Aucune trace de la jeune femme, pas plus ici qu'ailleurs. Madame de Pracontal a perdu l'espoir. « Ma fille, » dit-elle, « rendez-moi ma fille !» Et chez les bohémiens, on trouve une vieille cartomancienne qui veut bien tirer les cartes sous les yeux délavés de la marquise. Or, elle est formelle, cette diseuse de bonne aventure. Vous la reverrez, vous reverrez votre enfant. Cette étincelle d'espoir est fugace parce que les semaines passent et les mois et les années sans qu'on revoie la petite mariée en robe bleu clair. La famille va finir par faire élever une croix de pierre à l'endroit où l'on a vu la silhouette de Lucie pour la dernière fois. C'est sur cette croix qu'on voit l'inscription « Lucie de Pracontal, 25 juin 1715 ». Au bout de plusieurs années, les Pracontal quitteront d'ailleurs ce château maudit, ne laissant sur place qu'un malheureux concierge. Impossible de vendre un domaine à ce point marqué par le malheur dans la région. Il se dit même que le château est hanté par le fantôme de Lucie. Cette fois, le vieil homme a fini sa triste histoire. Une ombre passe, ai-je besoin de vous le dire, sur le groupe des jeunes visiteurs. Là, plus personne n'a envie d'aller visiter les ruines. Plus personne, sauf peut-être le vicomte de Rabastens. Il ouvre la bouche pour poser une question, mais il se ravise, il se lève et il va partir avec le gros chat gris sur les talons. Il s'en va voir ses souterrains d'un petit peu plus près.
Europe 1, au cœur de l'histoire,
revient dans un instant.
Et c'est une histoire assez incroyable que vous nous racontez cet après-midi, Franck, pour la première de la saison. La disparition mystérieuse de la jeune Lucie de Pracontal le 25 juin 1717.
Alors, 1715.
Il y a... 1715. Il y a une question que je me pose souvent depuis qu'on travaille ensemble. Où allez-vous chercher toutes ces histoires?
Ah mais vous savez, je vous ai souvent parlé de Gosselin le Nôtre, celui dont on trouve des ouvrages, parce qu'il y a énormément d'éditions qui se promènent un peu partout. On voit toujours J'ai le Nôtre et les gens croient que c'est Georges. C'est Gosselin le Nôtre en fait, qu'on appelait le pape de la petite histoire. Ce monsieur était un véritable... C'était une réserve, un puits sans fond d'histoires étonnantes. Il avait réuni tout ça dans une série qui s'appelle « Vieille maison, vieux papier ». Vous savez qu'il passait sa vie aux archives. Et notamment, il était spécialiste de Paris sous la Révolution, mais pas seulement, comme vous voyez.
Oui, mais alors d'accord, mais là, vous éludez la question. Parce que lui-même, où allait-il chercher toutes ces histoires?
Il les trouvait dans les archives, précisément. Hein. Ce sont des petits trésors d'archives, à partir souvent de quelques notations, de quelques notes comme ça. Il creusait la question, il se rendait souvent sur les lieux, ça c'est important, l'enquête in situ. Et puis, il faisait revivre l'histoire avec toutes ses émotions, bien entendu. Alors là, notre jeune vicomte, justement, Rabastens, est au cœur de ces ruines, de ce château de Montségur-sur-Lauzon, où 30 ans plus tôt a disparu la jeune mariée Lucie de Pracontal. Les soubassements de la grosse demeure en ruine sentent la moisissure, une odeur qui prend à la gorge. C'est ici un peu le royaume des ombres et des araignées. Dans les couloirs envahis de toiles poussiéreuses circulent toutes sortes de vents coulis, des mauvais courants d'air bien frais. Le jeune vicomte longe une galerie et puis une autre, si l'on en croit ce que nous dit monsieur le nôtre. Il pousse une porte, tout ce qu'il en reste. Il descend un escalier dérobé qui conduit vers un couloir étroit, plus obscur encore. Le jeune homme peine à trouver des repères. Il avance à pas compter dans cet endroit humide, de plus en plus froid. Il effleure le mur d'une main, parce qu'on ne voit quasiment plus rien. Il devine qu'il y a du salpêtre sur le mur. Et puis là, soudain, un décrochement dans la muraille. Alors Rabastens inspecte, il s'appuie, il cherche le défaut et voici qu'à sa grande surprise, une ouverture s'entrebâille dans un grincement de tous les diables. Le jeune curieux, j'allais dire le jeune explorateur, s'engouffre dans la brèche. Ses yeux tentent de se faire à l'obscurité, il manque de tomber. Il y a là une marche, puis une deuxième, puis encore une quatrième. Rabastens, à bout de bras, tient encore ouvert le lourd battant. Il se trouve dans une pièce qui a l'air quand même de belle taille, avec une atmosphère beaucoup plus sèche. Il y a moins d'humidité là, mais davantage de poussière. Et pour avancer, il lui faut lâcher le ventail, qui va se refermer lourdement. D'où provient le ray de lumière qui permet de se repérer dans cette salle? D'un soupirail qui est tout près du plafond, un soupirail garni de barreaux. Vraiment, c'est un affreux endroit. Alors le jeune homme est un peu surpris, ses yeux maintenant se font à la pénombre, il distingue quelques meubles, notamment vers le fond très sombre, une table, deux fauteuils à dossier haut, en face de ce qui a l'air d'être une cheminée. Le vicomte de Rabastens, qui d'habitude est tout à fait sûr de lui, manque un peu d'assurance, je dois vous le dire. Cette fausse lumière, cette poussière, cette odeur indéfinissable. Sur une petite table, il y a un vieux livre assez lourd. Après en avoir soufflé l'épaisse couche de poussière, le jeune homme s'approche du ray de lumière pour feuilleter l'ouvrage. C'est une Bible. Pour autant qu'il puisse distinguer, l'une des premières pages comporte une mention manuscrite. « Vous qui pénétrez dans cette chambre, recommandez... » C'est presque impossible à déchiffrer. Hein. « Recommandez âme, Dieu, n'en sortirez pas plus que moi. » Et c'est signé... Lucie. Le sang de Rabastens s'est glacé dans ses veines. Machinalement, il revient vers l'issue, seulement il n'y a pas de poignée sur ce gros battant dont je vous parlais. Alors il cherche un loquet, une serrure, quelque chose, à tout ça à tâtons, bien entendu. Rien, il n'y a pas de prise, impossible de ressortir. Et là, le jeune homme sent la panique le gagner, tout de même. Il n'a pas pu se laisser enfermer aussi bêtement. Alors, il essaie de respirer, fait l'effort de se calmer. Cette salle est un piège, mais on doit bien pouvoir... trouver la faille, à moins que, si Lucie n'a pas pu sortir, et là le regard du jeune homme se dirige, vous savez, vers les deux fauteuils à dossier haut, dans la partie la plus noire de la pièce. Un frisson le parcourt de la tête aux pieds, ne me dites pas, le jeune vicomte s'approche, et là il la découvre. Elle est assise, là, dans un des fauteuils, les bras sur les accoudoirs, elle a le visage très pâle, les yeux clos, les paupières closes. Les paupières sont creuses, vous savez, comme lorsqu'il n'y a plus les yeux dans les orbites. Les cheveux forment une mousse blanche vaporeuse. La robe est en lambeaux, les bijoux ternis. Rabastin s'est figé d'effroi. Il est en train de contempler la momie de Lucie de Quinsonnas. J'ai bien dit la momie de celle qu'on appelait Lucie de Pracontal. À nouveau, Rabastin s'est rué vers la seule issue pour tenter de l'ouvrir. Il tambourine de toutes ses forces. Il crie, il hurle « À moi ! Au secours !» Mais il a beau crier, le pauvre, comment voulez-vous que ses cris soient mieux entendus que ceux désespérés de la pauvre Lucie 30 ans plus tôt. Il est en train de vivre exactement ce qu'elle a vécu, tout simplement. La nuit tombe, le noir a maintenant complètement envahi la pièce. Comment sortir d'un tel enfer ? Le vicomte fixe le soupirail qui est fermé par ces espèces de lourds barreaux fichés dans la maçonnerie. La seule issue possible, c'est ce soupirail. Or, il est bien fermé. Le jeune homme pousse en sa direction une forte table de chêne. Il place sur la table un des grands fauteuils. Vous savez, le grand fauteuil resté libre. Il grimpe là-dessus. Il atteint péniblement les barreaux auxquels il se cramponne et il continue de crier « À moi ! Au secours !» Rabastin s'époumonne en vain. Il a faim, il a soif, il est en sueur, il perd l'équilibre, il tombe du fauteuil et il se retrouve à terre, sur les dalles froides, glacées même. Il s'évanouit. Et au matin, lorsqu'il va se réveiller, ce jeune imprudent, il va évidemment avoir un peu de mal à retrouver ses esprits, sa tête lui fait mal, il meurt plus que jamais de soif. Et là, soudain, dans un coin d'ombre impénétrable, il y a ces deux yeux qui sont là et qui le fixent.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec cette histoire incroyable cet après-midi, Franck, cette jeune fille retrouvée morte 30 ans plus tard après sa disparition en 1715, et cet homme coincé dans cette pièce avec ses deux yeux qui le fixent. Alors oui, à qui sont-ils ces yeux ?
Le vicomte de Rabastin, c'est en effet là, prisonnier d'une oubliette au sous-sol du château de Montségur sur l'Auzon. Il la partage, cette oubliette, vous avez raison, il la partage avec la jeune mariée qui est morte depuis 30 ans, avec cette Lucie. Il se réveille donc affalé sur les dalles froides quand il voit dans un coin sombre briller deux yeux tout ronds. D'abord, il pense à une hallucination, évidemment, seulement les deux yeux sont bien là, qui le fixent et qui sont réels. On dirait les yeux d'un chat, et pour cause, c'est le fameux chat aux yeux d'ambre dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le chat gris du concierge. On peut dire que, évidemment, c'est une bonne nouvelle, ça quand même. C'est une présence de vie dans ce cachot. Le jeune prisonnier retrouve aussitôt des forces. Et là, il a une idée. Tout doucement, il glisse la main vers la poche de sa veste et il en tire un grand mouchoir. Il mesure ses gestes pour ne pas effrayer le matou. Puis il enroule le mouchoir pour en faire une petite corde, tout en gardant les yeux fixés sur ceux du félin. Et d'un seul coup, il va bondir, il se rue littéralement sur l'animal. Le chat, miaulant, essaie de se défaire. Il donne en jurant des coups de griffe, mais Rabastin le cramponne. Il le tient bien, évidemment. Il va à ce moment-là lui nouer le mouchoir à l'une des pattes et puis il ramène les deux pointes sur le dos du chat. Il les serre d'un triple nœud et il relâche l'animal qui, évidemment, s'enfuit sans demander son reste. Un bond sur une pierre, un autre encore plus souple vers le soupirail, et puis hop, la boule de poils gris se faufile entre les barreaux et disparaît. Rabastin, pour ce plan du dernier espoir, a dû rassembler le peu de force qui lui restait, et il va s'écrouler de plus belle. Il va falloir maintenant bien des heures pour que ses amis, qui ont trouvé le chat, bien entendu, qui ont compris, ils ont trouvé le mouchoir de leur ami, ils ont compris ce qui se passe, mais il va falloir qu'ils localisent l'oubliette. C'est très long, cette opération. Et puis ensuite, il va falloir scier les barreaux pour extraire le pauvre vicomte. Des érudits locaux établiront que la cachette dont je vous parle, cette cachette avait servi au XVIe siècle de planque, au baron des Adrets, qui était un chef protestant recherché et qui avait établi là, en quelque sorte, son refuge. Et quand la vieille marquise de Pracontal, la mère de la mariée disparue, quand elle pourra enfin pleurer sur le corps de sa fille, elle repensera aux mots prophétiques de la bohémienne, parce que oui, c'est vrai, elle avait, d'une certaine manière, revu son enfant.
Dans quelques minutes sur Europe 1, Franck, vous allez lancer le tout premier épisode du grand destin de l'année. Toute cette semaine, vous nous racontez la vie extraordinaire de Charlie Chaplin.
Oui, et pour le moment, nous recevons donc notre invité. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous connaissez bien, vous, Gosselin Le Nôtre aussi. Nous avions collaboré.
Comme vous, oui, nous
avons
fait des choses ensemble sur Gosselin Le Nôtre. On avait à une quinzaine d'historiens, chacun choisi un de ses textes pour qu'il soit republié, présenté par nous. Et je me rappelle même d'un matin froid où nous sommes allés voir
sa tombe. Oui, qui est dans le cimetière de Picpus.
Oui.
Qui est un endroit qu'il faut visiter par ailleurs pour de toute autre raison. Hein. C'est un cimetière où sont des martyrs de la Révolution. Alors, Thierry, vous êtes donc le directeur de la Fondation Napoléon. Est-ce que c'est un grand cru qui s'annonce cette saison 2016-2017? On a beaucoup parlé de Napoléon en 2014 et 2015 et pour cause, c'était le bicentenaire de la chute de l'Empire, hein, bien sûr. Là, maintenant, il est à Sainte-Hélène, si je puis dire.
Oui, les bicentenaires se calment immanquablement, mais ça permet peut-être aussi de faire le bilan de ces 15 années de bicentenaire, puis éventuellement d'assister ou de promouvoir des événements nouveaux. Alors il y a dans ces événements, le premier là qui va arriver au mois de septembre, c'est la grande exposition sur le Second Empire qui aura lieu au musée d'Orsay. Une exposition sur le Second Empire qui parle d'autre chose que de l'art, de la musique et d'Offenbach. C'est quand même plutôt bien. Et que le musée d'Orsay ait choisi de fêter ses 30 ans par cette exposition est une bonne nouvelle.
Alors vous êtes venu nous parler de tout autre chose aujourd'hui. Vous êtes venu avec cette biographie qui sort chez Perrin, biographie de Joseph Bonaparte, le grand frère, celui dont on a dit beaucoup de choses et surtout des sottises. On va, avec vous Thierry Lenz, dans un instant, rétablir un certain nombre de vérités.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo cherchent du regard un spot de Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop, elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox.
Jolie des mythos, couleur mentalo. La voix d'Eddie Mitchell sur Europe 1 avec Couleur Mentalo. Restez avec nous dans un instant, la suite d'Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand reçoit cet après-midi Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
À suivre sur Europe 1 dans quelques instants, le grand destin de la semaine consacré à Charlie Chaplin. Vous pouvez d'ailleurs réagir à cette émission, poser vos questions à l'invité de Franck Ferrand, réagir sur Charlie Chaplin sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Mais avant de parler de ce grand réalisateur, vous recevez Thierry Lenz, fondateur, directeur de la Fondation Napoléon.
Oui, vous n'êtes pas tout à fait fondateur des études napoléoniennes, Thierry Lenz, mais on pourrait se poser la question. Vous en avez écrit de nombreux de ses ouvrages, vous avez publié de la correspondance d'un certain nombre de grands personnages de l'Empire, et là vous vous intéressez à une figure qui n'a pas tellement fait couler d'encre, il faut bien le dire. On n'a pas fait de biographie de Joseph Bonaparte depuis combien de temps ?
Depuis 50 ans.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
que la dernière date des années 70 et l'avant-dernière date du début du XXe siècle. Hein. Donc il n'y en a pas eu beaucoup. Celle des années 70 mettait beaucoup l'accent sur des choses qu'on croyait déjà savoir. L'amour de l'argent, l'amour des femmes, une forme de dilettantisme lorsqu'il est au pouvoir. Donc je pense qu'il y avait, comme Lucie, il fallait descendre dans les souterrains des archives.
Ça, il fallait chercher dans les sources, oui, bien sûr. Oui. On a une image de Joseph Bonaparte qui, disons-le, n'est pas très flatteuse. C'est un petit peu l'homme assez sympathique, mais pas très grand homme d'État, pas très grand gouvernant. Quel était le regard de son frère sur lui ?
Alors, le regard du frère est très important dans
la réputation. Quand je dis de son frère, je parle de Napoléon, parce qu'il y en a d'autres.
Évidemment, le regard est très important, puisque c'est Napoléon qui a distribué les bons et les mauvais points à Sainte-Hélène, et que personne ne s'est vraiment interrogé là-dessus. Et il a dit beaucoup de mal de Joseph, en même temps en disant que c'est l'homme qu'il a le plus aimé, c'était son frère préféré, en quelque sorte. Mais en même temps, il fait de lui un portrait, il passait son temps avec les femmes, il aimait la chasse, etc. Tout ça était vrai, mais ça n'était pas que ça. Et comme Napoléon avait un petit côté narcissique, il fallait toujours qu'il ramène tout à lui. Joseph, lui, s'en moquait totalement. C'est-à-dire que cet homme était...
On a l'impression qu'il n'a pas d'ego, ou très peu, en
tout
cas.
Oui, c'est ça. Il était suffisamment bien dans sa peau pour ne pas rectifier tout ça.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'abord, c'est l'aîné de la famille.
Ouais.
Est-ce qu'il a joué son rôle d'aîné ?
Ah, il a joué son rôle d'aîné du début à la fin. C'est-à-dire qu'il a été vraiment le chef du clan jusqu'en 1795, les événements de Vendémiaire. C'est lui qui a l'argent, les positions, les relations, etc.
Donc jusqu'au milieu, même presque jusqu'à la fin de la Révolution, c'est lui qui tient la famille.
C'est lui qui tient la famille, c'est lui qui finance tout le monde, y compris Napoléon. Et puis ensuite, il va avoir, grâce à Napoléon, des fonctions. Et on l'a toujours jugé par rapport à Napoléon.
Et oui, il faut dire qu'ils se connaissent particulièrement bien parce que, évidemment, Napoléon a été élevé avec son frère aîné. Alors que toute la série des petits frères, ceux qui viennent après, les Luciens, les Jérômes et tout ça, il les a moins connus.
C'est en fait, on peut presque dire, Joseph est le seul frère de Napoléon. C'est le seul avec lequel il a eu une vraie relation fraternelle. Et Joseph est tellement le chef de clan que même à l'époque de l'Empire, lorsque Napoléon veut demander quelque chose à sa mère, à ses frères, etc., il passe toujours par Joseph. Joseph reste le chef de la famille dans les affaires familiales.
Et quels sont ses rapports avec Madame Mère, justement, avec Laetitia?
Excellent. Joseph, c'est un peu celui qui a tenu la famille parce qu'il aimait Napoléon, parce qu'il avait compris les enjeux. C'est Joseph qui tient un peu la famille autour de Napoléon, y compris il essaye beaucoup de réconcilier Napoléon avec Lucien. Bon, il n'y parviendra pas. Et lui-même, d'ailleurs, à la fin de sa vie, aura les pires problèmes avec Lucien, qui est un personnage très bizarre.
C'est un homme qui a joué un rôle essentiel au début du 19e siècle. Et vous êtes d'accord, Anissa, on n'en parle jamais de Joseph. Hein. C'est un personnage dont le grand public n'a même pas connaissance, disons.
On n'en parle jamais, effectivement. Et il y a une question que je me posais. Est-ce qu'il a souffert de cette comparaison? Parce qu'il était l'aîné, le chef de famille, mais il était souvent comparé à son frère, j'imagine.
Joseph n'avait absolument pas ce genre de choses. Il a dit un jour, écoutez, moi, je ne demande rien, mais on me demande d'être le numéro 2. Bon, alors, il faut pas non plus en faire un numéro 2,5. Il faut me donner ce qu'on m'a promis. Voilà. Mais à partir du moment, par exemple, après la chute de l'Empire, Joseph n'est absolument pas assoiffé de pouvoir. Il se retire aux États-Unis, il va passer 25 ans aux États-Unis, où d'ailleurs il va avoir une réputation extraordinaire. Il reviendra en 1830 parce que il viendra faire un petit tour en Europe parce qu'il y a une opportunité de restauration.
Il est très bien reçu d'ailleurs, il faut dire.
Hein. Très bien reçu partout. Il a été apprécié par tout le monde. Il était l'ami des libéraux. Joseph, c'est le libéral.
C'est ça. Ça, c'est peut-être le secret. C'est-à-dire que avec un frère qui, à mesure que passaient les années, s'est rigidifié. Oui, disons-le, Napoléon a fini son règne dans une autorité implacable. Mm-hmm. Joseph est un peu le joker libéral en quelque sorte.
Exactement. Hein. Il a toujours fait office de solutions de rechange. pendant que Napoléon est en Égypte, on se dit, ben, on a un Bonaparte sous la main. Il est ambassadeur, il est député, bon, voilà, un bon Bonaparte. Au moment où Napoléon commence à renforcer son pouvoir, on vient le voir en lui disant, mais vous croyez pas qu'un régime plus libéral, etc. Il est l'ami de Madame de Staël, de Benjamin Constant, de Chateaubriand. Et en 1814, on vient lui proposer la régence.
C'est ça. Donc,
et lui, il la refuse.
Il pourrait presque être le successeur désigné de son frère s'il n'y avait le roi de Rome, évidemment, qui est né entre-temps. Et il a exercé de très très haute fonction. Alors bon, certes, il a présidé le district d'Ajaccio, il a été ambassadeur à Rome, député, conseiller d'État, roi de Naples, s'il vous plaît. Ouais. Et puis, ne l'oublions pas, Bien sûr. Roi d'Espagne. Ça ne s'invente pas, ça.
Alors là aussi, le roi d'Espagne, c'est au fond la tâche un peu sur sa mémoire. On pense qu'il a tout gâché, etc.
À cause de cette guerre terrible.
Ouais, ouais. Alors avec les archives, et notamment de nouvelles archives, puisque les archives de Joseph Bonaparte ont été confisquées par les Wellington après la défaite en Espagne et rendues à la France seulement en 79. Donc pour le moment, elles n'avaient pas été travaillées dans le sens d'une biographie de Joseph. On s'aperçoit qu'en réalité, dès le début de l'affaire d'Espagne, c'est Joseph qui a raison. C'est-à-dire, dès les premiers jours de son entrée en Espagne, il écrit à son frère pour lui dire « Cette affaire-là est très mal engagée, il faut mettre 200 000 hommes et 1 million par mois pour la réussir. » Et Napoléon, comme d'habitude, écarte tout ça d'un geste de la main en disant « Mais oui, vous, qu'est-ce que vous connaissez aux affaires ?» Enfin,
en même temps, il est resté le frère de Napoléon, l'envoyé français sur un trône d'Espagne qui ne l'a jamais, en quelque sorte, accepté ou digéré. Il n'est pas devenu espagnol pour un sou, Joseph Bonaparte.
Non, mais il a fait son travail. C'est-à-dire qu'il est allé au Corrida. Il est allé se mélanger à la foule, ce qui ne se faisait absolument pas dans l'étiquette de la cour d'Espagne.
Pour le coup, on ne le savait pas. C'est vous qui nous le faites découvrir.
Et chaque fois qu'il a rencontré des Espagnols, il les a séduits. D'ailleurs, aujourd'hui encore, alors même si évidemment il y a deux écoles en Espagne, mais quand on vous donne la liste des rois d'Espagne, on vous met Joseph Ier.
Hein, oui, c'est ça. Hein, c'est quand même. Il n'a pas été complètement. C'est pas un antipape d'une certaine manière.
Non, c'est pas un anti-roi.
Quelques mots pour cerner le personnage. Napoléon le considérait comme trop bon, comme trop doux d'une certaine manière.
C'est ça.
Est-ce qu'il l'était vraiment?
Alors, il l'a été à certains moments très, comment dire, coulant. C'était un négociateur né. Hein. D'ailleurs, il a négocié 4 grands traités internationaux avec les États-Unis, la paix d'Amiens, la paix de Lunéville et le Concordat. Donc, il a réussi, lui, à là où Napoléon n'allait pas. Alors, c'est vrai que c'est un homme, c'est un libéral au fond de lui. Donc, il accepte les idées contraires. Il se bat contre son frère. Très souvent sur les décisions de Napoléon, il y a des combats entre les deux frères qui sont homériques, avec des lettres extraordinaires. C'est-à-dire que Joseph est le seul qui peut écrire à Napoléon « Mais oui, vous qui régissez l'ensemble de l'univers, bien sûr, vous avez toujours raison. » Ou alors un jour, il lui écrit « Je me disais hier, l'empereur a presque toujours raison. » C'est le « presque » qui est important.
Mais c'était le grand frère, il pouvait quand même se permettre.
Oui.
Il va donc vivre aux États-Unis pendant très longtemps. Ça aussi, on n'a pas tellement conscience de ça.
Il crée un grand domaine français, près de Philadelphie, avec sa collection de tableaux. Il a 10 000 tableaux, des Gérard, des David, Napoléon franchissant le Saint-Bernard. Et il ouvre sa maison aux élites américaines et même au peuple américain. Il fait visiter sa collection de tableaux. Ce qui fait qu'il a gardé une vraie popularité là-bas. Dans les musées des environs de Philadelphie, il y a quantité, des centaines de tableaux qui ont été offerts par Joseph Bonaparte. À la Maison Blanche, il y a des meubles de Joseph Bonaparte. Et au moment où il est parti des États-Unis, il a été reçu par le président des États-Unis, qui l'a en quelque sorte remercié de ce qu'il avait fait pendant son séjour.
Je pense que certains de nos auditeurs ouvrent de grands yeux et ouvrent grand leurs oreilles parce que c'est un personnage, encore une fois, dont on n'entend jamais parler. Il n'a pas de descendance, il faut dire. Ça, c'est important.
Alors, il a une multiple descendance parce qu'il a eu, mais il a eu deux filles. C'est-à-dire qu'on ne les identifie pas dans les arbres généalogiques masculins. Il a eu une fille notamment qui a eu 13 enfants, hein, donc, dont la descendance existe encore, mais essentiellement en Italie, parce que ses enfants ont pris de leur père en quelque sorte pendant le Second Empire, alors que tous les petits Bonaparte venaient, passez-moi l'expression, à la soupe. Les enfants de Joseph, ils ne sont pas venus à Paris. C'est-à-dire qu'ils sont venus un petit peu, et puis ça les a agacés, toute cette ambiance de cour, etc. Ils sont retournés en Italie. Et puis pour terminer, finalement la comparaison entre Napoléon et Joseph que j'ai essayé moi de rejeter continue, puisque on les a enterrés tous les deux aux Invalides, l'un à côté de l'autre,
c'est
l'un dans
même
un magnifique tombeau et Joseph dans un tombeau qu'on voit à
beaucoup
peine.
Plus discret, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Thierry Lenz.
Merci à vous.
Non seulement d'être venu nous parler de Joseph Bonaparte, mais surtout d'avoir fait ce travail qui permet au public de mieux le connaître. Votre biographie de Joseph Bonaparte paraît chez Perrin. Merci. connaissez cette musique.
La musique du Kid.
Non, c'est pas la musique du Kid, ça. C'est la musique de ces deux petits chaussons de satin blanc. C'est la musique de Limelight, les feux de la rampe.
Ah, c'est vrai, bien sûr.
Grand film de Charlie Chaplin en 1952. Mais oui, ce sont des chefs-d'œuvre. Pour les Français, on peut dire que pendant longtemps, Charlie a été Charlot, le vagabond universel, mais qui était aussi Chaplin, l'un des plus grands de tous les cinéastes. Vous savez que c'est assez étonnant de voir que cet homme a fait presque toute sa carrière contre l'art même qu'il était censé représenter. N'oublions pas qu'il est resté fidèle au cinéma muet pendant 25 ans après l'invention du cinéma parlant. Il était encore capable, dans les années 1940, de sortir de grands films qui ne parlaient pas. Mais alors la musique, en revanche, était là. Elle était constamment présente. Il composait lui-même les musiques de ses films. Et il a eu l'occasion de s'en expliquer très souvent et de dire que pour lui, la musique était l'âme même de ce qu'il avait à dire. Et c'est peut-être pour ça que les musiques des films de Charlie Chaplin aujourd'hui nous émeuvent. Encore. Alors, on peut dire que deux Oscars encadrent la carrière de Charlie Chaplin. Le premier en 1929 pour le film Le Cirque, qui récompensait Charlot, là on peut le dire. Et le second en 1972, Oscar d'honneur, après 20 ans d'un exil douloureux pour l'artiste et qui récompensait Chaplin pour l'ensemble de son œuvre. Ce jour-là, Hollywood avait bien fait les choses. On avait convoqué un parterre, comme on sait faire aux États-Unis, vous savez, 2900 personnalités qui sont là et qui acclament debout un mythe vivant ou survivant. Et parmi les gens qui étaient là ce soir-là, dans la foule, il y avait un certain Jackie Coogan, qui à l'époque, donc en 1972, avait 58 ans. Il en avait 4 au moment où le film Le Kid a fait de lui une célébrité. Cet enfant de 4 ans qui est devenu le plus célèbre de la planète, bien entendu. Eh bien, c'est donc la destinée fracassante, parfois drôle, souvent amère, de cet immense artiste que j'aimerais vous raconter pendant le cours de cette semaine, parce que c'est une nouveauté dans cette émission Au cœur de l'histoire et je suis ravi de cette idée. Nous allons avoir 5 jours pour revenir sur les différents chapitres, tous plus étonnants les uns que les autres, de la vie, du destin de Charlie Chaplin.
Au cœur de l'histoire,
sur Europe 1.
Voilà, Franck, la musique du Kid, effectivement, de Charlie Chaplin, sorti en 1921. C'est le premier long-métrage de Chaplin, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands films de l'ère du muet. Vous nous parlez de Chaplin toute cette semaine. C'est le grand destin de la semaine jusqu'à 15h pour cet homme qui est l'icône du cinéma muet.
Et oui, et ce Charles Spencer Chaplin, c'était son nom, était très doué pour raconter des histoires. Il l'a montré à travers ses grands films et il racontait aussi des histoires sur lui-même, il faut bien le dire. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours certain, notamment de ce qui s'est passé pendant son enfance. Vous savez, il avait tellement tendance à multiplier les versions, à raconter les choses en fonction de ce qui lui venait à l'esprit. Il nous dit qu'il est né dans le quartier de Lambeth. On est vraiment dans les quartiers pauvres de Londres. Vous savez, c'est cette Londres sordide de la fin du 19e siècle. Nous sommes en 1889. Le problème, c'est qu'on ne retrouve pas le nom de Charles Spencer Chaplin sur les registres, vous savez, officiels de l'époque victorienne. Alors, c'est un peu mystérieux. Il est né, semble-t-il, le 16 avril 1889 et il précise dans ses mémoires 4 jours avant Hitler, ça c'est incontestable, Hitler est né le 20 avril 1889, à 8h du soir, nous dit Charlie Chaplin, qui devait se soucier de ceux qui aiment les portraits astrologiques, là vous savez, les...
Pour retrouver son ascendant,
pour savoir l'ascendant
et son signe.
Exactement. Sa famille paternelle était peut-être, je dis bien peut-être, d'origine française, en tout cas c'est ce que lui prétendait. Il disait d'ailleurs qu'il avait des ancêtres qui venaient des Andelys en Normandie, qui s'appelaient les Chaplins, tout simplement. Et Chaplin serait devenu Chaplin. Quant à la mère, il est possible qu'elle ait été juive. Lui-même est toujours resté très vague sur le sujet et assez contradictoire sur ses origines familiales. Parce que vous savez qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, notamment la question de l'appartenance ou non de Chaplin à la communauté juive s'est beaucoup posée. Et alors parfois, à certains journalistes, il répond « oui, je suis juif ». Et alors, et d'autres fois, il dit « je ne suis pas juif, mais j'aurais aimé l'être », dit-il. Il expliquera encore beaucoup plus tard, lorsqu'il sera en exil en Suisse, que s'il n'a jamais contesté la version sur laquelle il aurait été juif, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on croie qu'il ait considéré ça comme une tare ou comme un problème. Vous voyez, c'est
un peu, beaucoup de mystère,
un
hein,
peu
quand
mystérieux
même,
cette enfance, il faut bien le dire. Alors, ce qui est certain, en revanche, c'est que chez les Chaplin, on est saltimbanque et pauvre, ça vous l'aurez compris. Quand je dis pauvre, c'est vraiment un univers à la Dickens, bien entendu. Lorsque Charlie a 1 an, son père est un peu tout, il est chanteur plus ou moins de music hall. Son père quitte la famille, il les laisse vraiment à la rue. Et c'est la mère, Anna Hill, qui elle-même est la fille d'un petit savetier, c'est elle qui va devoir élever ses enfants, des enfants de différents lits, parce que Charlie a 3 demi-frères, mais qui ne sont pas du même père eux-mêmes, vous voyez. Donc, elle est danseuse dans une espèce de petite troupe d'opérette et elle trimballe ses 4 enfants de garni en meublé, vous imaginez. Le fils aîné, Sidney, est le fils d'un bookmaker. C'est lui qui restera proche de Charlie. Et pendant leur enfance, ces deux gamins sont assez inséparables, il faut bien le dire. Alors, beaucoup plus tard, lorsqu'il se penchera sur sa jeunesse, Chaplin écrira que son père serait mort à 37 ans d'une cirrhose du foie. Problème, non seulement la tombe du père de Charlie Chaplin n'existe pas dans le cimetière que son fils indique, mais on possède maintenant des programmes de spectacle où figure le nom de Charles Chaplin senior, donc du père, qui serait âgé de 40, de 41, de 42 ans, donc il n'est pas mort à 37 ans, vous voyez, c'est assez compliqué. S'il fallait imaginer Chaplin à cette époque, nous dit Didier Vallet, on le verrait fort bien sous les traits du jeune Jackie Coogan, ressuscitant le temps d'un film Le Kid, l'enfance de son auteur. Orphelin de père, Chaplin voue un immense amour à sa mère, Anna, allant jusqu'à lui attribuer une partie de sa réussite. C'est le mime le plus prodigieux que j'ai vu, disait Charlie Chaplin en parlant de sa mère. En la regardant, j'ai appris non seulement à traduire les émotions avec mes mains et mon visage, mais aussi à étudier l'humain. Déboires professionnels, crise de mysticisme, mauvaise santé de Anna, nous dit Didier Vallet, tous ces éléments conjugués font que la vie familiale se détériore. Et bientôt, le petit Charlie va être amené dans des conditions tout à fait incroyables. Il va être amené à remplacer sa mère. Ça, c'est un épisode assez terrible, assez affreux. Ça se passe à l'Aldershof de Londres, hein, qui est une espèce de cabaret qu'on appelle l'Elders à l'époque. Elle est chanteuse, la pauvre femme. Et donc, le 16 avril 1894, c'est en tout cas ce que nous dit Charlie,
la date anniversaire,
le jour de son 5e anniversaire, sa mère est là, elle est en train de chanter devant une espèce de troupe de spectateurs plus ou moins avinés qui se moquent d'elle, vous imaginez. Et elle est huée, etc. Et sa voix se brise, la pauvre femme. Elle peut pas, elle a sans doute dû boire, elle aussi. Bref, elle peut pas aller plus loin. C'est une huée dans la salle, c'est horrible, on la conspue. Et à ce moment-là, le patron de la boîte attrape le petit Charlie par le callback, si je puis dire, le jette sur la scène et lui dit « Allez, vas-y, gamin, remplace-la, chante n'importe quoi, mais qu'au moins, dit-il, il se taise. » Et vous l'imaginez, ce petit garçon qui se retrouve là, il connaît le répertoire de sa mère par cœur, bien entendu. Il est très doué, il a en lui une espèce d'énergie comique et il a le sens du spectacle. Alors, il va faire une chose terrible. Il va faire rire les gens en imitant sa mère. Il imite sa mère qui a la voix éraillée, qui a cette voix qui se casse. Et là, les sifflets se transforment en rires, les rires en applaudissements. Les premiers pas de Charlie Chaplin sur les planches auront été les derniers de sa mère.
Thank you.
extrait musical du film Le Kid, sorti en 1921, le tout premier long métrage de Charlie Chaplin, puisque c'est lui qui est à l'honneur toute cette semaine sur Europe 1 jusqu'à 15h, le grand destin de la semaine, celui de Charlie Chaplin. Et on l'a vu, à 5 ans, il fait ses premiers pas sur scène.
Oui, dans des conditions affreuses. Alors évidemment, ça a dû être d'autant plus dur pour lui qu'il a une vraie passion pour cette mère qui va bientôt être internée à l'asile de Cane Hill. Les enfants doivent se débrouiller tout seuls. Ils sont tout gamins, tout jeunes, bien entendu. À 9 ans, le petit Charles entre dans la troupe des 8 Lancashire Lads, qui est une petite troupe de gamins qui chantent et qui dansent, vous voyez, qui font rire les gens. À 12 ans, il va se lancer dans une grande tournée. Il est à l'affiche d'un mélodrame populaire qui s'appelle Junie ou le roman d'un Cookney. Or, ce qui est assez extraordinaire, c'est que lorsque vous lisez le scénario de ce petit spectacle, vous vous rendez compte qu'en fait, un certain nombre des épisodes du spectacle sont racontés par Charlie Chaplin dans ses mémoires comme des épisodes de sa propre vie. Vous voyez, quand le spectacle
se mélange
à la réalité. C'est assez fascinant, mais c'est un homme de spectacle. De toute façon, il le prouve dans ses années d'une précocité où sa précocité fait merveille. Le London Topical Times, à propos du roman de Cookney. Le Cookney, vous savez, c'est ce qu'on appellerait le poulbeau chez nous. Hein. C'est le gamin des rues. Et des ruisseaux. Le Topical Times nous dit qu'il est lumineux d'autorité dans son interprétation. Vous vous rendez compte, à 11-12 ans. Alors, il essaie de faire du cirque parce qu'il a une passion, une vraie passion pour le cirque, Charlie Chaplin. Le problème, c'est qu'il n'est pas très doué. Puis surtout, il va faire un jour une acrobatie qui se passe très mal. Il retombe de toute sa hauteur. Il se fait tellement mal qu'il croit qu'il va rester d'ailleurs à un moment qu'il va rester handicapé. Et il dit que c'est cette pirouette qui a décidé de sa carrière, parce que s'il avait réussi ce jour-là, il est possible qu'il soit devenu artiste de cirque. Mais là, il s'est dit que ce serait quand même plus facile d'intégrer une troupe de saltimbanques, ce qu'il va faire à l'âge de 16 ans. Si on devait définir son rôle, c'est un comique de rue, vous savez. Il interprète un vieux professeur complètement dingue. Il adore se déguiser. Hein. Alors, il se met une grande gabardine, il se grime, etc. Le rôle est comique. On le repère tellement qu'il y a quelqu'un qui va descendre de son hôtel pour venir le voir jouer dans la rue, parce qu'on lui a dit qu'il était extraordinaire, le quelqu'un en question. C'est pas n'importe qui, c'est Fred Carnot, K-A-R-N-O, qu'on écrivait Carnot comme le président Carnot lorsqu'il venait se produire en France. Fred Carnot, qui est un grand mime, le maître européen de la pantomime, qui est aussi un entrepreneur de spectacle extrêmement efficace, puisqu'il possède plusieurs troupes qu'il fait tourner dans toute l'Europe, etc. Et Carnot va apprendre beaucoup à Charlie Chaplin. D'ailleurs, lorsqu'il sera devenu un très vieux monsieur, Chaplin recevra à Vevey, il recevra Yves Salg, l'écrivain Yves Salg, et il lui dira que Carnot lui a tout appris. « Que vous a-t-il appris ?» demande le biographe. « Quelque chose d'essentiel, » répond Charlie Chaplin, « la concentration silencieuse, l'art de jouer sans dire un mot, l'antithéâtre, la technique des sourds-muets. » C'est assez extraordinaire. Il dit, ces sourds-muets qui sont les plus grands acteurs du monde. Tout ce qui est le contraire du cinéma, le cirque, ça a été une grande, une épuisante école pour moi, dit-il. À l'opposé de la comédie, notre profession est faite de 20 métiers à la fois, et ce sont ces 20 métiers qui font une vedette. Il joue les petits pauvres en haillons. Vous voyez déjà se dessiner ce personnage de Charlot qui bientôt éclora de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a cette tradition de misérabilisme dans le music-hall populaire de l'époque qui va nourrir littéralement le personnage du jeune Charlie. Certains biographes se sont d'ailleurs demandé encore une fois, l'enfance misérabiliste qu'il s'est attribuée n'était pas empruntée en grande partie à ces fameux mélodrames. Alors, il fait des tournées avec la troupe de Carnot, et c'est comme ça, figurez-vous, qu'en 1909, il se retrouve sur la scène bien parisienne des Folies Bergères. Et je vous avoue que, vous savez que l'année dernière, j'ai eu la chance de faire mes premiers pas moi-même sur scène aux Folies Bergères. Je ne suis pas en train de me comparer de près ou de loin à Charlie Chaplin, évidemment. Mais je peux vous dire que, évidemment, quand vous entrez sur ce grand plateau des Folies, vous pensez à Joséphine Baker, vous pensez à la grande Mistinguette, vous pensez à Maurice Chevalier qui a fait là, lui aussi, ses premières armes. Mais celui auquel, moi, j'avais tendance à penser surtout, celui qui est... qui est resté là, si je puis dire, c'est bien sûr ce Charlie Chaplin qui a ébloui le public parisien en 1909. Et en 1910, puisqu'il est né en 89, ça veut dire qu'il a 21 ans, il fait la traversée de l'Atlantique à bord d'un vulgaire cargo à bétail. L'arrivée au Nouveau Monde est terrible, vous savez, avec le passage par Ellis Island, vous connaissez tout ça. C'est une arrivée sordide et que Charlie Chaplin filmera plus tard et qu'il éternisera d'une certaine manière dans son film « Les migrants », bien entendu. Charlie remporte bientôt les suffrages du public américain. La troupe au sein de laquelle il se produit n'est pas forcément appréciée, mais alors lui, il brûle les planches. Dans Variety, on peut lire en 1911 dans Variety, il y a au moins un Anglais drôle dans la troupe de Carnot. Et il serait drôlement bien pour l'Amérique, dit le journaliste en question. Il serait si bien, cet Anglais, tellement drôle, que l'Amérique va bientôt se l'offrir. Il est en train de forger son personnage. Là encore, il le dit à Yves Salg. Il dit c'est à partir de cette certitude appliquée à une société qui découvrait la fantastique révolution en marche du cinéma mobile vivant, toujours en action et en situation, que j'ai façonné mon propre héros, dit-il. Un héros très moyen, délesté de toutes les qualités ou défauts usuels, ambition, arrogance, richesse, vitalité intellectuelle, séduction, beauté, mais bon, un héros bon, humain, candide, roublard à la fin quand il est excédé, la victime qui vient à bout du bourreau social, non point par la force, mais grâce à l'ingéniosité d'une tournure d'esprit qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Un héros modeste, un homme de la rue et de notre temps, identifiable par tous, enfants d'abord, parents, hommes et femmes ensuite, et qu'on a envie de prendre par le bras, à qui on éprouve le besoin de raconter ses peines de cœur, ses tracas de ménage, ses soucis d'usine ou ses ennuis d'argent. Ce personnage, évidemment, il va bientôt devenir familier, non seulement aux Américains, mais d'une façon plus générale au public de tout l'Occident et bientôt de la planète entière, car on racontera ça demain, bien entendu, les films de Charlie Chaplin, on jouera les films de Charlot. Quand je dis on les jouera, on les projettera, devrais-je dire, dans le monde entier, bien sûr. L'Amérique, vous disais-je, en novembre 1913, va recruter Charlie Chaplin pour le cinéma. C'est Adam Kessel, qui est l'agent de Max Sennett et de la firme Keystone, qui va le recruter. Et l'on peut dire à ce moment-là que c'est sans doute la meilleure décision qu'ait jamais prise Adam Kessel. Il a vu dans la troupe de Carnot, il a vu ce petit Anglais en haillons qui faisait rigoler tout le monde, et il s'est dit qu'il y avait en lui un potentiel qui allait non seulement venir accroître l'extraordinaire troupe de Max Sennett, mais qui allait surtout modifier le regard des spectateurs sur le cinéma. On peut dire que pour $150 par semaine, Hollywood vient de s'offrir celui qui portera plus haut que n'importe qui le cinéma américain.